Chers camarades, chers amis, je tiens d'abord à protester contre la répression de la manifestation de dimanche dernier à l'occasion de la COP21 à Paris. La télé en a fait des tonnes sur la poignée de casseurs alors que l'immense majorité des manifestants étaient pacifiques. Et protester contre l'hypocrisie de la COP21, de ces chefs d'État qui font assaut d'écologie mais envoient leurs bombardiers aux quatre coins de la planète. Plus de 300 personnes se sont retrouvées en garde à vue et certaines ont été condamnées le surlendemain à de lourdes peines. 3 mois de prison ferme pour avoir lancé une canette de bière sur des CRS ou 1 000 euros d'amende pour avoir refusé de laisser ses empreintes digitales. Ces condamnations surviennent le jour où l'ancien patron de la branche métallurgie du MEDEF, lui-même, qui gérait la caisse noire du patronat dans l'illégalité complète depuis des années, a été condamné, après 10 ans de procédure, à de la prison, mais avec sursis. Voilà à quoi sert l'état d'urgence voté par tous les partis à l'Assemblée nationale, du Front national au Parti communiste, excepté 3 députés socialistes et 3 députés écologistes. Le gouvernement prétend que l'état d'urgence sert à combattre le terrorisme, mais il n'a servi qu'à interdire des manifestations. Voilà à quoi sert l'état d'urgence. À bâillonner toute voix discordante. Et déjà, cela a servi de prétexte à certains patrons pour perquisitionner dans les affaires de leurs salariés. Demain, cela pourrait servir à sévir contre des militants ouvriers ou des grévistes. Les attentats de Paris ont été pour tous un grand choc. 10 mois après les attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, l'horreur est montée d'un cran. Parce que les tueurs frappent indistinctement, sans raison, pour terroriser. Parce qu'on ne peut que ressentir de l'incompréhension, de l'inquiétude et de la révolte face à de tels actes barbares. Et en même temps qu'ils nous ont bouleversés, les attentats de Paris ont profondément modifié la situation politique. Regardez comment Hollande, la droite et le Front national veulent récupérer l'émotion collective pour se poser en porte-parole et en représentant de toute la population. Il faut l'unité nationale, il faut serrer les rangs, y compris avec le Front national, nous disent-ils. Car si d'habitude, le PS, la droite et le Front national prétendent représenter des options inconciliables, là, ils sont tous d'accord pour sommer la mobilisation générale, tous d'accord pour nous embrigader derrière leur politique guerrière et sécuritaire, tous d'accord pour que nous nous alignions derrière leur politique fondamentalement dévouée à la bourgeoisie et à ses intérêts. Sur le plan extérieur d'abord, l'union sacrée du PS, de la droite et du Front national pousse à intensifier la guerre en Syrie. Ils sont incapables d'apporter quelque solution que ce soit au chômage, aux injustices et aux inégalités en France, mais ils veulent nous faire croire qu'ils éradiqueront le terrorisme dans le monde. Mais cette guerre contre le terrorisme n'a pas commencé il y a 3 semaines. Elle dure depuis 14 ans et force est de constater que les dirigeants des grandes puissances échoue à faire reculer le terrorisme. Aujourd'hui, en Afghanistan, les talibans sont de retour. L'Irak et la Libye sont devenus des sanctuaires pour djihadistes. Et cela fait 4 ans que la Syrie est ravagée par la guerre. Quant aux attentats, ils n'ont jamais cessé. Avant de frapper Paris, c'est la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie que les terroristes avaient ensanglantés. Ils ont frappé au Mali, en plein cœur de Bamako, faisant 27 morts alors que l'on nous expliquait que les terroristes avaient été vaincus dans ce pays. Les dirigeants impérialistes reconnaissent des lacunes et des erreurs dans leur guerre passée. Et pour cause, Daesh est né de la guerre menée en Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2003. Il a été formé par les sunnites que les Américains ont exclus de l'armée et du nouveau régime irakien. Ils ont prospéré sur le délitement de l'État irakien et indien suite aux interventions impérialistes. Mais cette fois, nous disent-ils, ils s'y prendront mieux. Ils formeront une grande coalition internationale et réussiront mieux militairement et politiquement. Mais vous savez que le Qatar et l'Arabie Saoudite comptent parmi les alliés de cette coalition, alors qu'ils financent et forment des djihadistes dans la région, et que la Turquie a longtemps servi de base arrière à Daesh, ne serait-ce qu'en lui permettant d'écouler son pétrole. Il ne faut pas s'étonner que 30 000 djihadistes parviennent à faire leur loi sur un territoire aussi vaste et qu'ils résistent aux attaques d'une coalition internationale. C'est le résultat de toutes ces politiques tordues. C'est le produit des rivalités des grandes puissances qui jouent chacune leur propre jeu, qui ont des intérêts multiples dans la région et qui s'appuient un jour sur les uns, un jour sur les autres. Quant à la solution politique envisagée pour stabiliser la Syrie, elle consiste à s'appuyer sur le régime féroce de Bachar el-Assad, qui a attaqué son peuple à l'arme chimique, qui a tué et fait disparaître des dizaines de milliers d'opposants. Alors peut-on lutter contre des monstres en s'appuyant sur des régimes tout aussi monstrueux? En agissant ainsi, ce n'est pas à la victoire contre le terrorisme qu'il nous mène, mais à une société de plus en plus barbare. Encore une fois, ils sont en train de poser des bombes à retardement dans une région qui explose déjà de toutes parts. Quant aux bombes dont on nous dit qu'elles visent des centres d'entraînement de Daesh, elles sont tombées sur des villes peuplées, sur des populations civiles, sur les pauvres, qui justement sont les seuls à ne pas avoir pu fuir. Qui peut croire qu'elles ne font pas, elles aussi, des dizaines, des centaines, des milliers de victimes innocentes? Non, la guerre des grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme. Elle l'alimentera une fois de plus, en nous enfonçant dans un engrenage de plus en plus sanglant. Oui, Daesh exerce une des dictatures les plus féroces qui soient, dans les régions qu'il domine en Irak et en Syrie. Leurs victimes sont autant, et même plus, musulmanes que chrétiennes. Preuve, s'il en fallait, qu'il ne s'agit ni d'un choc des civilisations, ni d'une guerre de religion, mais d'une lutte pour le pouvoir et pour les richesses d'une région riche en pétrole. Beaucoup nous disent « D'accord, mais on ne peut pas rester sans rien faire, il faut réagir, il faut bien les arrêter. » Et concrètement, pour ça, vous n'apportez pas de solution. Mais est-ce que le gouvernement en amène des solutions? Je l'ai dit, la guerre n'en amène pas, elle ne fait qu'aggraver la situation. Et en matière de sécurité intérieure, c'est la même chose. Qui peut croire un instant que l'état d'urgence permanent et une énième loi antiterroriste nous protégeront des attentats? Hollande a aligné les mesures sécuritaires, déchéance de la nationalité, expulsion, fichier des voyageurs qui prendraient l'avion, contrôle multiplié. Appliquez-les une à une aux attentats de Paris. Aucune n'aurait empêché d'agir les terroristes. Est-ce que l'on fera peur aux terroristes en les menaçant d'être déchus de leur nationalité ou en les menaçant d'être expulsés? Évidemment non. Comme le commande le Front National et la droite, le gouvernement veut plus de contrôle aux frontières. Mais aucune frontière n'a jamais été étanche. Et c'est surtout dérisoire quand on sait que tous ces terroristes sont français. Ils sont nés ici, sont recrutés ici, ou en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière. Et quand bien même ils seraient un peu plus entravés dans leur mouvement, quand bien même demain il leur serait plus difficile de se rendre en Syrie, qu'est-ce que cela changerait puisqu'ils sont là? Depuis 3 semaines, les terroristes ont eu le temps de se cacher, de fuir, de détruire les preuves. Mais la prolongation de l'état d'urgence est surtout utilisée contre ceux qui veulent s'opposer et manifester contre le gouvernement. Cet état d'urgence servira à faire taire les voix dissidentes, à interdire les manifestations. Une des premières interdictions a d'ailleurs frappé les manifestations qui devaient avoir lieu en soutien aux migrants. Alors que l'horreur des attentats nous donne une idée de la terreur quotidienne que ces femmes et ces hommes ont subie et ont fui, alors que cela nous donne une raison de plus de vouloir les secourir, il est interdit de manifester pour le dire. Au lieu de combattre les divisions, la peur et le racisme, ces mesures sécuritaires cultivent la méfiance, le repli sur soi et le rejet de l'autre. Elles vont dans le sens recherché par les terroristes eux-mêmes, et elles font ici le jeu de la famille Le Pen. Et Le Pen en profite d'ailleurs déjà. Le grand-père pour demander la peine de mort avec décapitation. La fille pour demander de rapatrier les migrants et la petite fille pour distiller son poison sur les musulmans qui ne pourraient pas avoir le même rang que les catholiques. Ces mesures ne seront pas seulement inefficaces, elles vont aggraver le climat nauséabond qui préexistait aux attentats où déjà il y avait de petits groupes qui attaquaient les migrants, où les identitaires d'extrême droite s'agitaient, y compris contre l'extrême gauche. Demain, les mêmes s'en prendront peut-être à nos camarades de travail, aux membres de nos familles, à nos amis, parce qu'ils sont étrangers ou suspectés de l'être par leur nom, leur couleur de peau ou leur signe religieux. Il faut refuser le courroux réactionnaire et guerrier qui se cache derrière l'unité nationale, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Non aux interventions impérialistes, non à cet état d'urgence permanent. Alors, quelle solution avons-nous? Eh bien, un geste positif, c'est déjà de dénoncer une politique qui nous enfonce. C'est déjà de ne pas cautionner et de ne pas aider les dirigeants qui nous mènent tout droit dans le mur. Quant à nous sortir de ce bourbier, eh bien, nous ne connaissons pas d'autre voie que de renverser le capitalisme et d'en défendre la perspective parmi les travailleurs. Le danger ne vient pas de l'extérieur, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il ne vient pas de telle ou telle religion, de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de ce système économique qui engendre chômage, inégalité, injustice, délinquance et guerre. Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce qu'ont pour survivre 3,5 milliards d'êtres humains. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des eldorados pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population, ne peut qu'engendrer des monstruosités. Le capitalisme est en faillite, au bout du rouleau. Et on le voit, le règne de la bourgeoisie, c'est non seulement l'exploitation et la dictature des actionnaires sur la société, mais c'est aussi cette barbarie qui se répand partout dans le monde et qui atteint maintenant Paris et le cœur de l'Europe. On ne se débarrassera de cette barbarie qu'en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire à la domination de ce système économique fou. Alors, pour un monde débarrassé de l'obscurantisme et de l'injustice, poursuivons notre combat pour renverser le capitalisme et bâtir une société communiste, la seule issue pour l'humanité. Avant le 13 novembre, on nous expliquait à gauche que l'essentiel était de lutter contre le Front National. Rappelez-vous comment Valls expliquait que l'éventuelle élection du Front National à la tête d'une région serait un drame et une catastrophe pour la France. Comment il en appelait au-dessus des partis à faire le Front Républicain? Mais quelques jours après, Hollande appelait Marine Le Pen à l'Élysée pour prendre auprès d'elle des conseils. Et le gouvernement a emprunté au programme du Front National nombre des mesures d'urgence qu'il impose aujourd'hui. Et demain, ils demanderont de faire barrage au Front National dans les urnes? Ils en appelleront à nouveau au Front Républicain? Ils diront tout sauf Le Pen? Tout cela, c'est de la manipulation politicienne. Ils se confortent les uns les autres. Et ils sont tous profondément d'accord. Le PS, la droite et le Front National sont rivaux, ils se battent pour aller à la Mangeoire, mais ils sont surtout les défenseurs et les complices de cet ordre social capitaliste. Ils défendent tous le point de vue du patronat. Ah, ils nous jouent l'air de l'esprit national. Mais l'esprit national est contraire aux intérêts des travailleurs. Il sert à faire taire les revendications et les luttes légitimes des exploités contre les exploiteurs. Les crapules de Daesh ne doivent pas faire oublier l'opposition d'intérêts entre les riches et les pauvres, entre les capitalistes et les travailleurs. La prétendue guerre contre le terrorisme ne met pas fin à la guerre de classe menée par le patronat. Nous nous présentons dans cette élection pour dire contre tous ces politiciens défenseurs de l'ordre bourgeois que la société est organisée en deux classes. Une classe dominante, une classe exploitée. Deux classes aux intérêts opposés et dont la situation respective est déterminée par un rapport de force. Lorsque la classe ouvrière se fait craindre, elle peut arracher des avancées. Lorsqu'elle ne se bat plus, elle recule fatalement, et avec elle, tout le reste de la société. Nous nous adressons aux travailleurs conscients de cela pour qu'ils s'expriment dans ces élections, pour qu'ils fassent entendre le camp des travailleurs conscients d'avoir à mettre en avant les revendications immédiates, dont a parlé Mink, mais conscients aussi d'avoir à mettre en avant les valeurs de la classe ouvrière et les perspectives qu'elle porte de révolutionner toute la société. Les bourgeois nous ressassent en permanence leurs valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, contre toute réalité. Eux-mêmes n'y croient pas un instant. En face, le camp des travailleurs se tait. Les travailleurs, y compris les plus conscients, ne mettent plus en avant les valeurs que leur classe représente. Car oui, le camp des travailleurs, la fraction des travailleurs conscientes, a toujours porté des valeurs propres aux exploités. Alors que la bourgeoisie a toujours prôné l'individualisme, la concurrence, le chacun pour soi, les travailleurs ont besoin de solidarité, d'organisation et de dévouement, non seulement pour se battre contre l'exploitation, mais tout simplement pour survivre. Tout en menant le combat quotidien contre le travail des enfants, pour la journée de travail de 8 heures, les militants défendaient l'idée de l'émancipation sociale, du progrès de toute la société, d'un monde libéré des superstitions et des préjugés, d'un monde libéré aussi de l'emprise des églises, qui ont toujours été du côté des puissants et de l'ordre établi. L'internationalisme a toujours fait partie du capital politique du mouvement ouvrier. C'est en intégrant dans leur rang tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur de peau, que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat. Ce faisant, ils ont fait reculer les idées racistes et xénophobes dans toute la société. Et l'honneur du mouvement ouvrier a été de militer contre toutes les formes d'oppression, pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, pour la libération des peuples colonisés ou contre l'apartheid. Ce capital politique a été peu à peu dilapidé par le Parti communiste français, qui en devenant stalinien est aussi devenu nationaliste et a remplacé le drapeau rouge par le drapeau tricolore et l'international par la Marseillaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français a versé dans le chauvinisme et les attaques anti-allemandes. Ensuite, les militants et le milieu ouvrier qui l'influençaient ont été nourris aux diatribes de Georges Marchais contre une Europe accusée de piétiner la souveraineté de la France. Ils ont été nourris aux appels pour le produire français. Et avec son obsession anti-allemande et sa propagande cocardière, un Mélenchon en remet une louche. Mais aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui prospère sur ce terreau. Alors, sans attendre des luttes qui feront de nos idées une force capable d'ébranler la société bourgeoise, il faut se battre à nouveau pour diffuser les idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. Oui, les idées de la lutte de classe constituent la seule boussole pour indiquer les intérêts des travailleurs. Il est vital que nous, les travailleurs, quelle que soit notre origine, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts pour nous défendre contre cette minorité qui nous exploite et plonge le monde dans la barbarie. Il est vital que nous retrouvions une conscience de classe, une conscience de nos intérêts communs par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines ou de nos statuts. On nous rabâche sans arrêt que notre identité dépendrait de notre origine, de notre nationalité ou de notre religion. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, gardiens, aides-soignants ou caissières. Notre condition de travailleurs exploités nous unit bien au-delà de nos différences. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs et des exploités. Une classe sociale... Une classe sociale qui n'a rien de commun avec ceux qui nous appellent aujourd'hui à l'Union nationale contre le terrorisme. Car ce sont ces mêmes dirigeants qui nous portent les coups, ici en France, en détruisant les droits des travailleurs, en permettant aux patrons de licencier sans entrave et sans pénalité, en laissant le chômage battre record sur record. Loin des calculs électoraux, il faut montrer aux nôtres, y compris à ceux qui s'égarent en regardant vers le Front national, qu'il y a encore dans la classe ouvrière des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de cette société. Lutter contre la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation pour finir par la supprimer totalement. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est porter les revendications immédiates qui permettraient au monde ouvrier de relever la tête. Mais c'est aussi œuvrer pour que renaisse un pôle de résistance au cours de plus en plus inhumain pris par la société, dont le sort des migrants est bien significatif. C'est passé au second plan d'actualité, mais chaque semaine, des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes meurent pour essayer de traverser la Méditerranée. Les survivants, qui ont réussi à poser pied en Europe, se heurtent encore aux murs et aux barbelés qui hérissent désormais le continent. Ils sont arrêtés, bloqués, forcés d'attendre dans des conditions infâmes quand ils ne sont pas internés dans des camps de rétention. Relâchés, ils reprennent leur marche forcée ou s'en remettent aux passeurs, risquant de mourir asphyxiés ou d'être parqués dans des bidonvilles comme celui de Calais. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de l'Europe. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. Mais non, pour ne pas donner prise aux critiques de la droite et de l'extrême droite, ce gouvernement socialiste barricade les frontières et aggrave les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Tout est ignoble dans cette politique. Ce tri qui est fait entre les vrais réfugiés qu'on pourrait accepter et les migrants économiques qu'il faudrait refuser. Ces centres, appelés hotspots, qui sont une façon de sous-traiter les migrants aux pays pauvres, à la Grèce, au Liban, à la Jordanie ou à la Turquie. Comme si pour ces pays ce n'était pas un problème autrement plus compliqué à résoudre que pour un pays riche comme la France. Les grandes puissances payent pour que ces centres soient le plus loin de chez eux. Exactement comme des municipalités bourgeoises payent pour ne pas construire des logements sociaux sur leur territoire. Il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour dire que la France pourrait faire bien mieux qu'accueillir les 30 000 réfugiés sur 3 ans promis par ce gouvernement. Cela fait moins de réfugiés qu'il n'existe de communes. Et tout le monde a rappelé, à d'autres époques, la France a su accueillir les réfugiés de la guerre d'Espagne en pleine crise économique après le krach de 1929. Elle a su aussi accueillir les boat people vietnamiens, ou encore le million de pieds noirs qui est venu en France en catastrophe à la fin de la guerre d'Algérie. Hier, le gouvernement, comme la droite et l'extrême droite, nous répétait jusqu'à la nausée qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, ils vont nous dire qu'accueillir les migrants représente un danger parce que des terroristes pourraient se glisser parmi eux. Ils vont maintenant faire passer des victimes de la barbarie pour des assassins potentiels. Ça aussi, c'est une monstruosité. S'ils voulaient accueillir des migrants et vérifier leur identité, mais qu'ils organisent leur arrivée, qu'ils organisent leur transport, la traversée de la Méditerranée, qu'ils organisent des ponts aériens comme ils l'avaient fait pour les boat people, mais qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi pour refuser ici l'asile aux migrants. Encore une fois, face à cette unanimité réactionnaire, il faut montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne cèdent pas au repli sur soi, à la peur de l'autre, qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se trompent pas sur les responsables de la situation et qui se préparent à lutter contre la domination de la grande, contre la domination de la grande bourgeoisie et contre tout son système qui nous mène à la barbarie. Crise économique, crise politique, crise migratoire, guerre, terrorisme, les dirigeants les plus puissants de la planète ne maîtrisent plus rien. Et regardez comment, même sur la question de l'écologie et du réchauffement climatique, ils sont incapables de trouver de véritables solutions. Dans le cadre de la COP21, ils vont tous s'engager solennellement pour agir. Mais ils ne prendront aucun engagement contraignant, ni pour leur pays, ni pour les grands groupes industriels, qui sont les premiers pollueurs de la planète. Des trusts pour qui l'écologie, c'est bon pour se faire de la publicité, ou pour s'asseoir dessus, comme le montre la fraude à grande échelle de Volkswagen. Les dirigeants de la planète, les dirigeants des grands groupes capitalistes, savent tout du problème et des conséquences catastrophiques pour des millions de femmes et d'hommes. Mais ils ne bougeront le petit doigt que si cela peut leur rapporter de l'argent, que s'ils trouvent le moyen de faire du business avec l'écologie. Eh bien, il est vraiment urgent de renverser ce système économique complètement fou. Si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. Mais pour en être capable, elle doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi de la conscience de classe. Faire en sorte que cette conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs, c'est le fond de notre politique, c'est notre raison d'être. Les événements d'Air France ont confirmé le caractère anti-ouvrier de tous les grands partis, du Parti Socialiste au Front National, mais ils ont aussi réveillé la conscience de classe dans le monde du travail. Sans que cela n'ait été coordonné par aucun parti, par aucun syndicat, l'écrasante majorité des travailleurs s'est unie derrière les salariés d'Air France et contre le torrent de boue dont ils ont été victimes. Cela a été une réaction élémentaire, un même sentiment d'indignation et d'injustice. Cela a été l'expression d'un sentiment de classe. Mais entre un sentiment de classe et une conscience de classe solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les travailleurs dans les combats qu'ils ont à mener, il y a un gouffre. C'est ce gouffre que pourrait remplir un parti ouvrier présent largement dans les classes populaires, en incarnant, dans toutes les situations politiques, une politique propre aux travailleurs. C'est ce que nous visons. Et c'est tout le sens de notre participation aux élections en général. Que les travailleurs s'affirment de nouveau comme une force politique ne se fera pas en une élection, alors qu'ils sont aujourd'hui dispersés, déboussolés pour certains. Ce processus peut prendre d'autres voies que celle des élections. Une révolte des travailleurs pourrait faire mûrir les consciences à une toute autre échelle et d'une toute autre façon. Mais il faut utiliser toutes les possibilités qui se présentent à nous pour progresser dans cette voie. Et là, aujourd'hui, il faut utiliser les élections régionales. Il faut que ce sentiment et les intérêts de classe qu'il recouvre et que l'on a vu lors des événements d'Air France trouvent une expression politique. Si les travailleurs ne s'érigent pas en force politique, c'est la bourgeoisie et les partis à son service qui garderont le monopole de la parole. Et leurs mensonges sur le coût du travail, sur les 35 heures, sur la compétitivité, sur le code du travail, continueront à avoir libre cours. Eh bien, il faut que les travailleurs ne laissent pas leurs ennemis politiques parler à leur place. Chaque élection doit permettre de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui se revendiquent du camp des travailleurs. Alors profitons de ces élections régionales et de la présence des listes de lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Dans tout ce contexte, notre participation aux élections peut paraître dérisoire. Beaucoup, avant même les attentats, se désintéressaient de cette élection. Cela fait des années, des décennies que le monde du travail vit et s'enfonce dans la précarité. Et il y en a eu des élections, il y en a eu des alternances. Alors oui, les travailleurs en ont eu des occasions de vérifier que les élections ne changeaient pas leur sort. Aujourd'hui, avec les attentats et ce sentiment d'être démunis face à une société qui s'enfonce toujours plus dans la barbarie, ça ne peut que renforcer l'aspect anecdotique d'un tel scrutin et cette idée que finalement tout ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a pas à s'en étonner, il y a à convaincre. Il y a à convaincre que si, le vote pour les listes de lutte ouvrière a une utilité, celle de montrer qu'il y a des travailleurs qui ont compris, comme eux, que les grands partis ne représentent pas leur camp. Celle de rassembler politiquement les travailleurs conscients d'avoir des intérêts de classe à défendre. Or, le problème n'est pas d'être entendu de ceux qui gouvernent, car ces gens-là se moquent bien de ce que les électeurs peuvent signifier dans les élections. Mais il s'agit d'être entendu du monde du travail. Il s'agit de montrer aux nôtres qu'une fraction ne se résigne pas, qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rallier s'ils n'acceptent pas la situation. En déchirant ou en brûlant leur carte d'électeur, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient pouvoir se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Ils se trompent, car en s'abstenant, ils se taisent. Et pire, cela donnera d'autant plus de poids à tous ceux qui voteront pour le PS, pour la droite ou pour le Front National. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Oui, la réalité, c'est que pour changer la vie des travailleurs, il faut inverser le rapport de force entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et cela, seules les luttes collectives peuvent le faire. Mais faute de pression collective et d'intervention directe des exploités sur ceux qui gouvernent, toute la vie politique se résume à ces élections. Même aux yeux de ceux qui n'y croient plus, les élections constituent les principales échéances de la vie politique. Eh bien, il faut que les travailleurs les utilisent, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour faire entendre leurs intérêts contre ceux du grand patronat, pour affirmer leurs perspectives contre celles que veulent nous imposer les porte-paroles de la bourgeoisie. L'issue que nous indiquons aux travailleurs peut sembler lointaine, et en même temps, elle est inscrite dans la société elle-même. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires, c'est la vie elle-même et c'est le moteur de l'histoire. Les travailleurs ne resteront pas indéfiniment l'arme au pied. Alors il faut reconstruire, continuer de lever le drapeau communiste, car tôt ou tard, les travailleurs chercheront le chemin pour un avenir meilleur. Je l'ai dit, nous sommes à contre-courant, et dans ces élections, nous ferons sans doute de petits scores. Mais c'est précisément lorsque les idées progressistes et révolutionnaires sont les moins en vogue, c'est lorsque la société va dans le sens contraire, qu'il est important de maintenir ces idées. Ce n'est pas la première fois que le mouvement ouvrier connaît un reflux. Il y en a eu bien d'autres, des périodes de guerre, de crise, de répression, où le combat devenait si difficile que la grande majorité abandonnait et perdait confiance dans sa capacité à changer les choses. des périodes où seule une minorité résistait, des moments même où elle ne pouvait plus résister et elle se cachait. Mais il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont conservé leurs idées et leurs convictions profondes et qui ont fini par les transmettre. Nous sommes les héritiers de ces minorités, les héritiers de leurs idées, et nous devons avoir aussi leur courage, leur ténacité et leur dignité. Ce qui me caractérise, c'est cette confiance dans la classe ouvrière, cette confiance dans les exploités, et donc cette confiance dans l'humanité. Cette idée que le capitalisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité, et qu'un jour nous en tournerons la page pour en écrire une nouvelle, autrement plus enthousiasmante. Alors, chers camarades, ne craignons pas d'être minoritaires, portons haut nos convictions et soyons-en fiers. Et au travers de ces élections, continuons d'avancer dans la voie qui est la nôtre, celle de participer à la reconstruction du camp des travailleurs. Alors aidez-nous à faire entendre la voix de ce camp, et puis pour les quelques jours qui nous restent, votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.